Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Ondaine sur le 90.9 FM ou les www.radio-ondaine.fr. Nous vous proposons ce soir une émission en direct de Saint-Chamond, en direct d'un nouveau lieu, d'un tiers-lieu. Celui-ci s'appelle La Boussole et dans cette émission, nous parlerons de son fonctionnement solidaire et participatif. Et si La Boussole indique les directions où aller, il existe d'autres repères, notamment à Saint-Chamond, avec ces chats que vous pouvez voir et qui annonce l'arrivée du festival La Rue des Artistes, porté par l'association À Tout Monde, qui, dans un sens, elle aussi, œuvre dans un esprit participatif et ouvert. Autour de cette table ronde radiophonique, il y a Cynthia Faure et Mustapha Kéroua pour À Tout Monde, et puis Patrick Laroux, le référent d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme, c'est la structure qui gère et qui s'occupe de ce tiers-lieu La Boussole. Bonsoir à tous les trois, bienvenue donc sur notre antenne de Radio Ondaine. Merci tout d'abord de nous accueillir, monsieur Laroux. Alors, qu'est-ce que Habitat et Humanisme, déjà pour débuter cette discussion que l'on va avoir pendant une grosse demi-heure?
Merci à vous surtout de nous rendre visite. C'est pour nous extrêmement agréable et important d'avoir une audience un peu plus élargie. Alors, Habitat Humanisme, c'est une association qui a été créée sur Lyon par le père Bernard Dever pour lutter contre le mal logement et pour favoriser l'insertion sociale. Donc, pour ce faire, il a construit un mécanisme qui est relativement simple. C'est avoir des logements décents et accompagner les personnes qui sont en situation d'exclusion à travers des travailleurs sociaux et également des bénévoles. Donc le réseau Habitat Humanisme est national. Il a été créé il y a un peu moins de 40 ans. Il est représenté dans 58 départements et à l'étranger aussi, en Belgique et au Luxembourg. Donc c'est une association à bailleurs sociaux qui devient de plus en plus important. En gros, il y a 9800 logements sur la France. Depuis la création, on a hébergé 34 000 familles. Donc ça commence à devenir important. On a trois activités principales, entre guillemets. Une activité pour le logement, une activité pour les soins, notamment des EHPAD, et une activité également pour l'urgence. Donc c'est ces trois activités qui font la richesse d'Habitat Humanisme.
Alors ces trois activités, est-ce que ce sont ces trois axes que l'on retrouve sur n'importe quel territoire où Habitat Humanisme existe? Alors expliquez-nous.
Alors sur la Loire, puisqu'on va redescendre à un autre niveau, nous avons principalement des logements dans le diffus, c'est-à-dire des logements qui nous sont mis à disposition par des propriétaires solidaires, on y reviendra dessus tout à l'heure, également des appartements qui nous appartiennent en propre Habitat Humanisme. On a également des maisons intergénérationnelles, une à Saint-Étienne, une à Montbrison. On a des pensions de famille, il y en a une à Saint-Chamond, une à Saint-Étienne, et en projet, une à Riurges. On héberge actuellement à peu près 400 personnes.
D'accord. Alors ces personnes-là qui sont hébergées par Habitat Humanisme, comment sont-elles dirigées vers vous ?
Elles sont dirigées vers nous parce que ce sont des familles qui ont des difficultés pour se loger. Donc elles sont dirigées vers nous par des lieux sociaux en fait. Et on accueille aussi des réfugiés. À Saint-Chamond, nous avons par exemple trois familles qui viennent d'Afghanistan. Après la prise de Kaboul, il a fallu accueillir des familles en urgence. Donc on les a hébergées chez nous.
Alors, si l'on reste un peu dans le cœur de votre action, avant de parler de La Boussole, le lieu dans lequel on se trouve là, vous hébergez ces familles sur une durée indéterminée ou est-ce qu'il y a quand même un contrat qui va être signé pour signifier que c'est de l'urgence et que c'est donc pas du...
Le but, ce sont d'héberger ces familles pendant une durée limitée, c'est-à-dire un an, voire deux, trois ans. Le but, c'est de leur permettre de s'insérer dans la société le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont mis à disposition pour les aider dans toutes les démarches administratives et des bénévoles pour les accompagner dans la découverte de la cité, pour accompagner les enfants, pour les aider dans toutes les démarches et le soutien scolaire. Donc il y a vraiment ce binôme qui nous différencie d'autres travailleurs, d'autres réseaux sociaux. Il y a vraiment le binôme des travailleurs sociaux et des bénévoles. C'est la richesse du mouvement.
Alors, on est accueillis, on vous en remercie, dans ce tiers-lieu solidaire. Voilà le titre qui suit le nom de ce lieu à Saint-Chamond. C'est 9 rue du Rivage et c'est donc la boussole. Oui. Tiers-lieu solidaire, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition que vous pouvez en donner de votre structure Habitat et Humanisme?
Alors, un tiers-lieu solidaire, c'est quoi? C'est un facilitateur. C'est un facilitateur pour la mixité sociale, pour les liens sociaux, pour rompre l'isolement et pour devenir acteur de sa propre vie. Alors les tiers-lieux ont été voulus par Habitat et Humanisme, encore une fois sur le Rhône. Pourquoi ? Pour dire, on accompagne des familles, on sait faire, sauf que il manque un maillon pour qu'il s'insère totalement dans la cité. Et le tiers-lieu, autrefois, on pourrait dire c'est le bistrot du coin. Où on va se retrouver, on va rencontrer d'autres personnes, on va échanger, on va apprendre un certain nombre de choses. Et c'est le but du tiers-lieu, c'est de se rencontrer, d'apprendre. Il n'y a aucune exclusion, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il n'y a pas et tout est gratuit, il n'y a pas d'adhésion, etc., etc. Alors sur Saint-Chamond, nous avons construit ce tiers-lieu, mais en partenariat très très étroit avec 6 autres associations. Il y a la Croix-Rouge, le Secours catholique, France Bénévolat, Aide Soutien Partage, Le Panier Couramio et Saint-Chamond Espoir. Ce sont des associations qui ont une activité à la fois locale et nationale.
Alors, pourquoi ce Saint-Chamond dans la Loire? Pourquoi ce premier tiers-lieu ici de Habitat et Humanisme?
Alors, Saint-Chamond, il y a un tissu associatif qui est très riche, très important. Et nous avions l'opportunité d'avoir un local qui était vide. Il fallait tout le refaire puisqu'il y avait un commerce qui était en déshérence. Donc on a refait tout le local et on s'est dit un tiers-lieu, on va profiter pour élargir notre activité et permettre aux familles qui sont suivies par Habitat Humanisme d'intégrer d'autres structures.
Alors c'est une installation ici qui est assez récente, c'est en plein centre-ville de Saint-Chamond, on est rue du Rivage, juste à côté de la place de la Liberté. Une installation et une ouverture qui a eu lieu au mois de mars 2023. Alors quelles sont les premières ambitions que vous avez pour ce tiers-lieu solidaire à 2 mois maintenant suite à l'ouverture?
Nos ambitions sont toujours les mêmes, c'est de lutter contre l'exclusion, favoriser la mixité, c'est toujours ça, que chacun devienne acteur de sa propre vie et ça facilite les rencontres. C'est vraiment le but fondamental du tiers-lieu. Alors dans ce tiers-lieu, on a embarqué différentes activités, on a un pôle de conseil en santé, on a un pôle de jeux de société pour les enfants, on a des personnes qui lutte contre la fracture numérique, des écrivains publics, aide aux démarches administratives. Et on a aussi voulu faire des expositions. On a des expositions de photos, on a un partenariat avec l'Entente artistique pour des expositions de tableaux que vous pouvez admirer, pour dire que la culture doit être ouverte à tout le monde.
Alors c'est le sujet de cette ouais. émission avec notamment la venue d'À tout monde, mais restons un peu sur le fonctionnement ouais. de la boussole avec donc ces ateliers pour lutter contre la fracture numérique, ces espaces de jeu pour les enfants, cet espace santé là. Qui l'anime? Qui sont les personnes qui sont là au quotidien pour animer ce lieu et le faire vivre?
Alors pour faire vivre ce lieu, on s'appuie sur les 6 associations, sur les 7 associations avec Habitat Humanisme. Il y a une 30aine de bénévoles qui font fonctionner le lieu, plus une personne qui est en contrat civique et qui fait le lien entre tout le monde. D'accord. Et les bénévoles, ce qui est important pour nous, c'est l'accueil. L'accueil, c'est de dire, il y a quelqu'un qui rentre, qui a envie de discuter, on prend le temps, on prend un café, on discute avec cette personne. Une personne qui a envie de conseils pour l'insertion professionnelle, on va prendre le temps de l'écouter. Soit on peut le faire ici, soit on va l'orienter vers d'autres structures qui ont beaucoup plus de moyens et de compétences que nous.
Alors, si l'on parle de tiers-lieu, c'est un terme que l'on utilise depuis de très nombreuses années, ouais. Et qu'effectivement, ce sont des endroits mis à disposition pour des associations, des structures qui pourraient proposer des activités ou même réaliser sa propre activité ou utiliser simplement un endroit en dur pour des réunions, etc. Là, on est quand même dans cette notion tiers-lieu solidaire avec cette notion de toujours proposer que les associations viennent ici, n'utilisent pas le lieu, mais anime ce lieu-là. Comment se passe ce roulement? On a les horaires hein, sur la porte. Le mardi, c'est de 9h à midi. Le mercredi, c'est de 15h à 19h, etc. On retrouvera les horaires complets ailleurs. Comment vous avez établi l'agenda, le calendrier du lieu?
Alors, on a un comité pilotage qui regroupe toutes les associations, puisque c'est très participatif. Il n'y a pas une association qui va imposer aux autres. On prend toutes les décisions en commun et on a imaginé au départ ce qui pourrait servir toute la population saint-chamondaise, puisque c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et petit à petit, on fait évoluer en fonction des demandes des bénévoles qui ont constaté qu'il y avait des besoins, etc., etc., ou des passagers qui rentrent, qui nous disent on aimerait bien développer telle activité. On va développer tout ce qui va être soutien scolaire. Parce qu'on a une demande importante de dire on a des problèmes de soutien scolaire dans les familles, donc on va mettre en place ce principe. On va développer aussi un repas partagé. Puisque là, le repas partagé, ça permet vraiment un échange en toute sympathie, en toute convivialité avec des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées ailleurs.
Alors, c'est là où on comprend que ça s'adresse aux personnes qui bénéficient d'un logement par Habitat Humanisme, mais la volonté, c'est aussi de créer ce lien-là avec les habitants de Saint-Chamond, ouais. Et donc de l'ouvrir à tous. Et c'est donc le cœur du projet, hein, c'est avoir un lieu ouvert à tous et permettre la découverte de nouvelles personnes. Quand on réfléchit à ce projet-là, donc il y a déjà l'implantation en centre-ville, on est d'accord que voilà. On imagine quoi pour la suite en fait? Est-ce que ce lieu ça va rester ici, mais est-ce que les activités peuvent s'exporter? Est-ce que ça aussi c'est une ambition de fédérer autour de ce lieu-là et puis après aller ailleurs dans la ville?
Non, pour l'instant on construit le lieu. Voilà. On n'a que 2 mois d'existence. Très franchement, ça démarre doucement, oui. Hein, puisqu'il faut que le public comprenne le concept, ose pousser la porte, ose venir. Et l'idée, c'est au contraire que d'autres associations, d'autres services publics puissent utiliser ce lieu pour différentes activités. Nous rencontrons le CCAS, le Sauvegarde 42, qui vont tenir peut-être des permanences ici, parce que c'est un lieu qui est un petit peu différent, qui permet un accueil différent que dans un bureau, dans une structure administrative qui parfois peut briser une certaine convivialité. Là, les bénévoles ont le temps d'écouter, ont le temps de dire si vous voulez parler pendant une heure, on parle pendant une heure, on n'a pas de contraintes.
Oui, donc l'idée c'est d'être libre de venir, libre de rester et surtout se sentir bien à l'endroit où on est. Alors, on va ouvrir la porte hein, et on va aller voyager à Saint-Chamond avec les 16, 17 et 18 juin. Ça, c'est le festival La Rue des Artistes. Et c'est donc porté par À Tout le Monde. Et depuis le début hein, de ce festival-là, il y a cette volonté de créer un lien avec les habitants. Donc, nous, le lien, on le fait avec ce tiers-lieu ici, La Boussole. Et c'est un pilier un peu de l'idée du festival et d'À Tout le Monde. Alors, est-ce que c'est un festival participatif? Tiens, si on reprend ces mots-là. Et en quoi ce serait un festival participatif?
D'abord, bonsoir à tous. Merci hein, de nous accueillir à La Boussole, à Saint-Chamond, qu'on a découvert nous il y a quelques temps avec Cynthia. Il est participatif parce que dès le départ, en fait, quand on a créé le festival, on s'est posé la question de... Bah, d'abord, déjà, l'association À Tout le Monde est une association qui porte un projet avec les habitants et non pas nous tout seuls dans notre coin. Tous les projets qu'on porte ont du sens si les habitants sont impliqués et s'ils sont concernés par le projet. Et quand on a créé le festival, c'était comment impliquer tout de suite les habitants sur le projet. Et tu l'as dit, Nicolas, tout à l'heure, en introduction, si vous venez à Saint-Chamond, vous avez plein de chats qui aujourd'hui décore les ronds-points. En fait, cette petite idée toute simple, en fait, c'était de dire ben, on va découper un chat sur une planche de contreplaqué qu'on va proposer aux écoles de décorer avec les enfants. Avec à l'époque aucun thème, hein. Les gamins faisaient ce qu'ils voulaient sur le truc. Ils étaient accompagnés par une artiste plasticienne qui venait aider les profs à décorer ces chats. Et ensuite, on installait les chats. Mais les chats, on les installait de façon à ce que la famille qui habitait sur tel quartier bah, fasse le déplacement sur un autre quartier. Donc en fait, aller découvrir un peu comment ça se passe ailleurs. Et en fait, ça a été un succès dès le départ, puisque la première année, on avait plus de 180 chats qui avait été décoré par les écoles, et des embouteillages au rond-point de Saint-Chamond, puisque les familles venaient pour se prendre en photo avec le petit à côté du chat. Et voilà, donc on a démarré comme ça le festival et la participation des habitants sur le projet comme ça.
Alors ensuite, le festival, c'est bien sûr ce rendez-vous annuel depuis 26 ans maintenant, mais à tout le monde, c'est aussi une proposition tout au long de l'année avec une volonté et l'envie de s'adresser au plus grand nombre, et notamment les jeunes des centres sociaux. On en a parlé ici sur l'antenne de Radio Ondaine, on y a participé avec la création d'une web radio. C'était également cette année l'occasion d'aller découvrir le monde de l'humour, que ce soit en interview ou en atelier. L'idée de faire participer ces jeunes qui ne se connaissent pas forcément, qui viennent de différents quartiers de la ville, comment elle évolue depuis toutes ces années-là et comment elle existe en 2023 ?
Alors ça a été très compliqué au début, parce que quand on arrive en ville, je voulais pas le faire. Hein.
Ah bon, on a la radio, tu peux chanter.
Cynthia, ça l'a fait rire. Quand on arrive en ville, on vous regarde bizarrement, on dit tiens, c'est quoi cette association qui débarque, qui veut tout révolutionner, qui arrive, qui crie fort, parce qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé à tout le monde, j'étais jeune et je voulais tout faire, je voulais tout révolutionner. On y est quand même arrivé un petit peu. C'est compliqué, donc on se fait déjà connaître auprès des centres sociaux. On dit voilà, nous on aimerait vraiment faire des choses avec vous. Et petit à petit, les centres sociaux se sont rendus compte que ce qu'on proposait, parce que les premières années, ils n'ont pas voulu travailler avec nous, hein, et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, que ce qu'on faisait, c'était crédible, c'était très professionnel et ça avait du sens par rapport aux actions que eux pouvaient porter dans les quartiers, et surtout qu'à tout le monde était un facilitateur pour permettre l'accès à la culture, parce que eux, à l'époque, même encore aujourd'hui, n'ont pas les financements pour ça.
Alors ouais, c'était quasi du porte-à-porte, hein. Aller frapper à toutes les portes, aller démarcher. L'idée, c'est donc l'ouverture d'esprit vers la culture. C'est aussi le principe du festival avec ses tarifs contenus et la gratuité de la journée du dimanche. On parle des jeunes, après les familles. Après, j'ai évoqué cette journée du dimanche. L'idée, c'est de faire venir les familles. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que vous y arrivez dans le festival ou est-ce qu'il y a encore du travail ?
Alors effectivement, le fait de pouvoir continuer à proposer malgré tout une journée qu'on va passer quand même cette année à prix libre, où voilà, la gratuité ne sera plus forcément la mise, mais en fait chacun et chacune seront invités en fait à donner le tarif qu'ils veulent, qu'ils peuvent. Et effectivement, quand on est sur le festival et quand on est sur les 3 jours de l'événement, on voit que le dimanche, effectivement, on a des familles, on a des festivaliers en fait qui ne sont pas là sur les journées payantes. Il y a plusieurs raisons à ça. Finalement, il y a ne serait-ce que les horaires. Le dimanche, on est sur une ouverture des portes aux alentours de midi. On était à 11h, là on passe à 13h. Alors que sur les journées payantes, on est plus sur des choses qui se passent en soirée. Donc à partir du moment où effectivement on a des plus jeunes enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais on réfléchit aussi à une programmation, alors c'est inclusive n'est pas le mot, mais en fait qui s'adresse finalement à tous. On va proposer à chaque fois des animations familiales avec des choses pour les parents et pour les enfants, des spectacles tout public. Et des concerts, on a 3 concerts du coup sur la journée du dimanche qui s'adressent vraiment à tous les publics. Donc avec ces différents facteurs, on arrive effectivement à faire venir les familles, parce qu'aussi on peut recontextualiser qu'on nous sommes dans le parc Nelson Mandela, qui est un endroit très très fréquenté, qui se situe quand même en plein cœur de ville et qui du coup est un lieu de passage pour beaucoup, chacun en sortant de l'école, etc. Faut dire aussi que du coup pendant une semaine on privatise finalement ce lieu-là et qu'on prive aussi les habitants de ce magnifique parc, parce que c'est un très très beau parc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. Après, rien n'est acquis. Rien n'est acquis.
Pour compléter le propos de Cynthia et pour faire le lien avec la boussole, quand on a rencontré la boussole, il y a quelque chose qui avait retenu mon attention, c'était de dire en gros, nous on aimerait que les familles qu'on accueille fassent des choses ensemble, entre les enfants et les adultes. Et nous, dans le cadre du festival, en 2003, je crois, en 2003 ou en 2004, on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup, parce que le départ du festival, il faut le rappeler, il était dans les rues de Saint-Chamond. Et la rue de la République était la cour de récréation des enfants qui habitaient la rue. Donc en fait, pendant deux jours, on allait les embêter, quoi, du coup. Et en fait, ils étaient chez eux. Donc du coup, on a eu beaucoup de mal, nous, les premières années, avec des gamins qui avaient 4-5 ans, qui descendaient, qui étaient tout seuls. On disait, mais c'est pas possible, ces gamins qui sont tout seuls dans la rue. Ouais, mais ils habitent là, donc ils ont juste à descendre des escaliers. Et puis, on les contrôlait pas, puisqu'en fait, moi, je rappelle, ils crachaient sur les artistes, ils jetaient des cailloux. Enfin, voilà, quoi, c'était tout ça. Donc, on a fait de la formation, on a travaillé là-dessus. Et quand on est allé au parc, on a réfléchi à comment faire que les parents accompagne les enfants. Et on a créé l'espace famille. Et l'espace famille, c'était un lieu sur le festival qui était uniquement réservé à des enfants qui étaient accompagnés par les parents. Voilà, c'était un truc, voilà. Pour pouvoir ensuite partager quelque chose avec la famille. Malheureusement, année 2020, année 2021, a fait qu'on a été obligé d'arrêter cet espace, en fait. Et on a du mal aujourd'hui à le remettre en place parce qu'on s'est rendu compte que nous, techniquement, ça nous arrangeait un petit peu. Mais on est en train de travailler, comme dit Cynthia, à revoir comment on peut refaire ce travail-là, parce qu'il est quelque part un peu délaissé aujourd'hui. On se rend compte que quand on fait les rencontres, là récemment on a fait plein de rencontres avec d'autres partenaires qui nous disent l'accompagnement, la parentalité, le lien avec les familles, tout ça revient et c'est important qu'on y retravaille.
Alors, c'est aussi le. Alors, monsieur Larroux, vous vouliez intervenir, non ?
Oui, parce que nous avons la chance, à tout le monde va mettre à notre disposition trois chats que nous allons décorer avec des parents et des enfants. Donc, ça nous permettra de compléter notre action, d'expliquer l'art, mais aussi de faire travailler ensemble les familles. Donc, là, je vous remercie énormément parce que ça nous permet de participer à notre manière à la rue des artistes.
Important. Alors, le sujet de l'émission, très large au début, était sur l'accès à la culture. Et les discussions qu'on peut avoir ici et là, c'est que beaucoup de portes sont fermées pour des familles en difficulté, sa condition sociale, ses origines, beaucoup de critères de discrimination qu'on retrouve dans le monde du spectacle et de la culture. Et puis, ces portes-là, quand elles sont ouvertes, on s'aperçoit aussi que ces personnes ont du mal à franchir, même si on leur demande de venir, elles ne viennent pas. C'est une constatation qu'on peut tous avoir ici et là. Alors comment on y travaille ça? Un dimanche à prix libre, l'après-midi en famille, mais par exemple dans l'accompagnement que peut donner la boussole, est-ce qu'il est réfléchi d'organiser peut-être des sorties culturelles, entre guillemets, mais je dis sorties culturelles, mais surtout voilà, de montrer via différents lieux d'affichage qu'il existe aussi tout un monde à découvrir à côté et dans lequel toute la population est invitée, un monde certain. On n'est pas invité parce que c'est trop cher, mais il y a d'autres lieux où on peut venir.
Oui, alors Habitat et Humanisme accompagne des familles dans des visites de musées. Donc ça, c'est pour les familles que l'on accompagne. Et ce qu'on a souhaité quand on a créé le tiers-lieu, c'est de dire on va mettre des expositions. On a commencé pendant un mois avec des expositions de photos, d'un club de photos. Là, on a des expositions de peinture et régulièrement, on va avoir ce genre d'exposition. Tout simplement, c'est le constat que vous faites. On a des populations, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller voir un tableau, d'aller voir une expo de photos. Et surtout, avec Entente Artistique, on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi l'artiste a peint de telle manière et faire des initiations de peinture. Hier, il y a une artiste qui expose ici, Chantal Rousson, qui est venue avec du matériel, qui a fait peindre de l'aquarelle à des enfants qui ne l'avaient jamais touché. Ils sont tous repartis avec leur toile et ils étaient vraiment heureux. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va mettre en place, des initiations à la peinture, mais aussi voir avec la MJC si on peut avoir aussi des poésies qui soient lues par le club poésie de la MJC, voir d'autres artistes, des musiciens qui viennent se produire ici pour les familles qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès et qui a un mélange de tous.
Alors pour réagir, moi je suis très content d'entendre que l'Entente artistique a fait un atelier peinture parce qu'en 2017, on a monté un projet avec l'ensemble des centres sociaux, je ne me rappelle plus le titre, c'était être citoyen à Saint-Chamond, quelque chose, être jeune citoyen à Saint-Chamond. Et l'idée c'était qu'en fait que les gamins ils puissent découvrir en fait des activités artistiques et on avait sollicité déjà l'Entente artistique et en fait des groupes de jeunes des centres sociaux avaient peint sur des vraies aquarelles qui avaient été exposées, donc je vois que la présidente Dalila Rétoré a poursuivi l'action, c'est bien, ça veut dire qu'on a semé une graine.
Une graine, et en parlant de graines, effectivement, vous multipliez les actions, et on est toujours à la recherche de ce public-là, alors je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est ces jeunes de la ville qui ne viennent pas au concert, qui ne sortent pas, qui restent chez eux, qui choisissent. Alors après, là, c'est aussi... peut-être que les propositions ne le satisfont pas, tout simplement, c'est peut-être ça aussi.
À Saint-Chamond, c'est le cas. Voilà, on va le dire franchement, c'est le cas.
Alors voilà, et comment on reçoit toutes ces informations-là, et puis comment après on fait remonter, alors pas faire remonter, mais comment on fait en sorte que la ville soit en phase aussi, ou le territoire, on va pas dire la ville, on va dire le territoire soit en phase avec ses habitants.
Moi je vais répondre vite fait, mais c'est Cynthia qui répondra plus longuement sur le sujet. Nous il y a l'histoire du camping, sur lequel on a travaillé, dans le cadre d'un chantier éducatif avec la sauvegarde 42. On fait la deuxième édition cette année, mais je laisserai Cynthia en parler. Et en ce qui concerne la proposition artistique et culturelle sur le territoire en direction de la jeunesse, il y a vraiment des grosses questions à se poser. Aujourd'hui, on a peur. Il y a quelques semaines, on a discuté sur des sujets culture, sport, mobilité concernant la jeunesse. Et le problème de la culture est revenu très, 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 très souvent. Parce qu'on ne fait pas de propositions artistiques qui concernent les jeunes, parce qu'on a peur, tout simplement. Tu vois, à Saint-Chamond, il n'y a pas de hip-hop, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de rail, il n'y a pas de musique orientale, il n'y a pas de musique, tu vois. Je veux pas aller plus loin, mais déjà rien que ça, quoi.
Alors, Cynthia, vous avez été choisi pour finir ce commentaire-là.
Sur le camping, ouais.
Oui, non, mais même sur les propositions artistiques, en soi, c'est vrai que, quand on regarde un petit peu les différentes choses qui peuvent être programmées sur le territoire, c'est vrai qu'on ne va pas retrouver beaucoup de choses qui sont destinées à la jeunesse. Ça, c'est un fait. Alors pourquoi ? Il y a peut-être de la peur, il y a peut-être de la méconnaissance, il y a certainement beaucoup de choses qui nous dépassent. Mais voilà, nous, avec le festival, on ne s'est jamais revendiqué non plus un festival pour les jeunes, qu'on soit bien d'accord, mais parce que sinon, on n'aurait pas cette programmation-là, on le dit clairement. Mais par contre, on essaye, mine de rien, de faire en sorte que les jeunes puissent se sentir aussi concernés par le festival, parce que on est sur la 26e édition, qu'on sait qu'il y a des jeunes qui sont nés avec finalement le festival, qui ont fait les chats, etc., mais qui se sont toujours sentis exclus et pas concernés par le festival. C'est-à-dire que quand ils vont voir normal, des agents de sécurité à l'entrée du parc ou etc., qu'on soit sur des journées payantes ou gratuites, ils vont pas franchir la porte. Parce qu'effectivement, comme Nicolas, tu le disais tout à l'heure, il y a cette chose de ne pas se sentir concerné. Et l'exemple du camping, c'est un très très bon exemple finalement de barrières qui sont tombées. Parce qu'en quelques mots, donc on a cette idée d'aire d'accueil éphémère pour nos festivaliers qui viennent de loin ou même pas d'ailleurs, hein, s'ils habitent à Saint-Chamond et qu'ils veulent, c'est possible.
Passer une nuit au camping.
C'est quand même une expérience, hein. Camping à Fonsala, c'est pas partout qu'on voit ça. Mais en fait, pour du coup accueillir ces campeurs d'un week-end, les orienter, etc., etc., on a mis en place un partenariat avec la Sauvegarde 42, la prévention spécialisée, qui du coup met en place un chantier éducatif durant lequel on a entre 10 et 12 jeunes de Saint-Chamond prioritairement du quartier de Fonsala, qui du coup s'investissent durant tout le week-end pour accueillir les gens. Et c'est vrai que déjà, on dénote beaucoup dans finalement les chantiers éducatifs au sens large, dans la mesure où on est uniquement sur des choses manuelles, des travaux manuels, du style peinture, rénovation, etc. Là, on est sur une mission humaine, où il faut parler avec des gens, on a vraiment d'autres compétences finalement qui sont mises en avant. Et en fait, ça permet aussi vraiment à ces jeunes de se sentir membres de l'association et membres du festival. Parce qu'ils ont le t-shirt, etc. C'est nous qui leur fournissons les repas durant tout le camping. On a également ils sont inscrits dans notre programme, ils font vraiment partie de l'équipe. Et l'exemple de l'année dernière est assez flagrant dans la mesure où le camping ferme à 16h ses portes le dimanche. Et le dimanche, aux alentours de 17h-18h, on a une équipe de jeunes qui sont venus sur le festival. C'était la première fois qu'ils venaient. Alors c'était des jeunes de 19 ans, donc en fait, ils n'étaient même pas nés quand le festival a commencé. Et c'est la première année qu'ils sont venus au festival et qu'ils ont découvert ça. Alors certes, après, les programmations artistiques n'étaient pas forcément ce qu'ils voulaient, mais au moins, ils ont pu se sentir concernés par l'événement. Et voilà, ça peut être un des leviers finalement qui permet de pouvoir faire venir les jeunes à du spectacle vivant.
Alors quand Cynthia dit parle de partenariat, en fait, c'est nous qui avons fait cette proposition à la sauvegarde parce que nous, dans nos actions, on veut toujours donner du sens. Et on se disait, c'est l'occasion peut-être pour des jeunes de vraiment arrêter de peindre des peintres. C'est bien de le faire, mais à un moment donné, donnons un peu plus de hauteur au chantier éducatif et permettre à des gamins de se dire, ouais, moi, je participe. Et Cynthia, elle ne le dit pas, mais les gamins étaient fiers, en fait, d'accueillir les festivaliers. Ils ont fait des trucs qu'on leur avait même pas demandé dans la feuille de route, tellement ils étaient à l'aise et tellement ils étaient bien. Et tellement ce truc a été novateur, la sauvegarde 42 l'a pris en exemple, en fait, là. Et en fait, ils n'arrêtent pas d'en parler. Et quand ils parlent de chantier éducatif, ils disent, le camping éphémère à Saint-Chamond, c'était top. Voilà. Donc en fait, à partir de ça, on essaie maintenant de réfléchir. Les autres partenaires essaient de réfléchir à d'autres actions où les gamins ne sont pas obligés de tenir un pinceau pour avoir une bourse pour pouvoir faire quelque chose, quoi.
Alors oui, effectivement, une initiative assez, assez unique qui sera réitérée donc cette année-là. Cynthia, tu disais tout à l'heure que ces jeunes-là sont venus, c'était peut-être pas leur tasse de thé musicale, mais ils sont restés parce qu'ils se sentaient partie prenante. C'est tout l'effort qu'il faut faire aussi, c'est se dire que on disait que les propositions ne correspondaient pas aussi à la jeunesse, mais la jeunesse peut, alors je parle comme quelqu'un d'âgé, mais la jeunesse peut aussi aller voir un peu plus loin que ce qu'il y a devant elle. Et il y a cet esprit de mélanger, de rencontrer, et c'est ce que fait la boussole, la rencontre dans la cité, c'est-à-dire qu'on n'est pas on appartient à un ensemble quand on habite dans une ville, et rien ne nous interdit d'aller voir les autres, et rien n'interdit les autres aussi d'aller de venir voir ceux qui ne connaissent pas.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est la mixité sociale, la rencontre des autres, le partage, c'est-à-dire on vit ensemble. Il n'y a pas d'exclusion, on est tous ensemble dans la même cité. Donc il faut partager, c'est le minimum.
Alors ce partage-là, on peut le faire ici, c'est 9 rue du Rivage à Saint-Chamond. On peut le faire aussi au festival, on peut venir un peu avant, dans l'après-midi, on peut passer ça à côté, c'est vraiment pas très loin. Et puis après, on peut aussi profiter de lieux où des gens se retrouvent, que ce soit la Place de la Liberté, que ce soit le parc Nelson Mandela, pour aller discuter avec la personne qui se trouve à côté de soi, voire même un peu plus loin. C'est un peu le principe, et c'est de vivre ensemble, en fait, c'est ça.
Oui, et puis le festival, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'expliquais encore hier lors d'une interview que ne mettons pas toutes ces histoires de crise, de guerre et compagnie dans le fait que les gens vont mal. Non, non, les gens, vous allez bien. Simplement, on est en train de vous dire que ça va pas. Non, non, dans votre tête, ça va. Donc, sortez, bougez, allez voir les autres, parlez avec les autres. Et la boussole, bah, le fait, et le festival le fait également.
Allez, on arrive à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous d'ores et déjà la semaine prochaine. Ce sera à 18h. On parlera toujours autour du festival. On parlera de l'émergence artistique. Ce sera à Saint-Étienne au PAX, dans un autre lieu. C'est bien sûr toujours sur Radio Ondaine. Alors, merci Patrick Laroux de nous avoir accueillis ici à La Boussole. On reviendra l'année prochaine, on fera les 1 an avec toutes les personnes qui viennent ici faire ces activités-là et les bénévoles. Merci Cynthia Faure, merci Mustapha Kéroua pour À Tout Monde. On va remercier aussi Tino qui est bénévole, qui a pris de son temps.
Un bénévole
qui a pris de son temps pour faire la technique de cette émission et il est en studio à Radio Ondaine. Tino qui animera d'ici quelques minutes son émission qui s'appelle Studio 83, une émission de funk suivie dans le monde entier.
Wow.
Et là, si on veut aussi avoir le sourire, eh ben c'est le bon endroit pour se poser avec sa radio et écouter le 90.9 FM de Radio Ondaine. On se quitte en musique avec le titre Baltimore du groupe Ina Dayard,
yes,
qui est programmé lors du festival La Rue des Artistes les 16, 17, 18 juin 2023 à Saint-Chamond, parc Nelson Mandela. Merci à vous.
Merci.
Merci. Thank you.
interruption. Radio Ondaine 90.9 FM.